soigner les symptômes de l'autisme avec un diurétique déjà sur le marché, la buméthanide. Voici la drôle d'idée proposée il y a 6 ans maintenant par une équipe de chercheurs français. Aujourd'hui, les résultats de la 3e étude clinique sur 87 enfants sont présentés. Ils sont encourageants. Ézéchiel Benhari, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche émérite à l'INSERM, président et fondateur de la société Neurochlore qui a mené ces essais. Comment d'abord est-ce que vous avez découvert qu'un diurétique pouvait être efficace contre les troubles autistiques? C'est quoi le lien là?
Le lien, il est que je travaille depuis 30 ou 40 ans sur la régulation des courants électriques dans les neurones, un sujet compliqué. Et nous avons découvert le fait que dans des situations pathologiques, les neurones ont des taux de chlore élevés à l'intérieur, ce qui modifie leur décharge, leur activité électrique. Et on s'est dit, si on pouvait le baisser, ce taux de chlore, on pourrait peut-être atténuer certains symptômes. Il faut dire que ceci s'applique à l'autisme et à des tas d'autres maladies. Et un diurétique, c'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est qu'il agit au niveau des reins, sur l'entrée de chlore notamment, pas seulement, mais notamment. Et il fait la même chose au niveau du cerveau, à travers un même transporteur, finalement. Et donc, on a commencé par un essai avec 5 patients, ensuite on est passé à 57 patients, le docteur Lomonier l'a fait à Brest. Et là, nous avons fait un essai multicentrique dans 6 centres en France, dans 6 villes différentes, totalement double aveugle randomisé. Et les résultats qui ont été publiés hier montrent qu'il y a un effet positif, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les enfants traités et ceux qui ont reçu le placebo.
Alors, quels sont les effets du traitement que vous voyez pendant 3 mois sur ces enfants?
Alors, il y a plusieurs critères pour évaluer la sévérité de l'autisme. On a utilisé les 3 principaux critères, qui s'appellent CGI, CARS et SRS, peu importe. Alors, évidemment, c'est une maladie, c'est un syndrome extrêmement hétérogène. Donc, on n'a pas pu choisir seulement les hauts niveaux, les bas niveaux. On a fait un panel assez large. Ce qui en ressort, c'est que la sociabilité est améliorée. Les parents, en général, disent... les enfants sont plus présents, c'est le mot qui revient systématiquement, ils sont plus là, ils sont présents. Donc la sociabilité est améliorée, et puis il y a aussi une atténuation de ce qu'on appelle les stéréotypies, c'est-à-dire des mouvements désordonnés, et une amélioration de l'état général.
Et dès 3 mois, vous avez des résultats?
Oui, dès 3 mois, on a des résultats. Alors il faut dire que Éric Lemonnier traite des enfants depuis maintenant quelques années, il y a des enfants qui sont sous traitement depuis quelques années et ils continuent à prendre le traitement. Il faut comprendre que ce n'est pas une guérison. Je veux dire, c'est pas j'ai mal au crâne, je prends l'aspirine, j'ai plus mal au crâne, ça marchera pas pour ces maladies-là parce que ce sont des syndromes qui naissent intra-utéro, in utero. Et donc, il modifie quelque part la construction du cerveau. On sait par exemple que le cerveau d'enfants autistes autour de l'adolescence est souvent plus grand que le cerveau des typiques, des neurotypiques, de ceux qui ne sont pas autistes. Donc, il y a des modifications importantes dans la construction du cerveau. Et donc, comme l'initiation est intra-utérine, on comprend qu'on va dévier des séquences maturatives, développement tout simplement. Et à l'arrivée, vous avez une situation que vous ne pouvez pas guérir avec une pilule. Je veux dire, ce n'est pas notre ambition. Notre ambition est de réduire la sévérité du syndrome.
Alors, la buméthanide est déjà prescrite aujourd'hui pour d'autres troubles. Quelle est la suite de l'histoire? Les médecins vont pouvoir prescrire cette molécule pour traiter les troubles?
Non, c'est plus compliqué que ça. Alors, il faut savoir que cette molécule a été synthétisée il y a plus de 40 ans. Et elle était utilisée pour traiter l'hypertension et l'œdème cérébral, parce qu'elle réduit l'eau, évidemment. Ça fait des années qu'elle n'est pratiquement plus utilisée. Au fait, l'entreprise Servier, avec laquelle nous allons faire la phase 3, parce que ce sont des sommes importantes qu'il faut dégager pour une phase 3, c'est-à-dire 370 enfants, 5 pays, ça va coûter cher. Ben, elle l'a fait parce qu'aussi, pour des tas de raisons, une parmi ces raisons, c'est que il y a en Europe ce qu'on appelle un PUMA, c'est-à-dire une protection du développement de médicaments pour les enfants. Parce que souvent, les entreprises ne sont pas intéressées. Quand vous faites ça, vous avez pendant 10 ans une complète protection. C'est-à-dire que même si la molécule est sur le marché, vous n'avez pas le droit de la vendre par rapport au produit que nous fabriquons, qui est un sirop d'ailleurs, qui n'est pas une pilule, et qui est un sirop qui contient les doses qu'il faut, etc., etc. Mais il ne sera pas sur le marché tout de suite. La phase 3 va durer probablement 3 ans au minimum, parce que les autorités européennes ont exigé une durée de recrutement d'un an, ce qui est très long.
Pourquoi?
De 2 à 18 ans, ce qui est très large. Eh bien, parce qu'ils veulent être sûrs qu'il n'y a pas d'effet à long terme d'une part, et d'autre part, ils veulent ce qu'on appelle un wash-out. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand vous l'avez? Vous arrêtez de traiter. Normalement, après quelques temps, les symptômes reviennent.
Ouais,
je vous ai expliqué que c'était un traitement, pas une cure. Et donc, ils veulent un an pour être sûr que rien ne se passe. Alors, nous avons des enfants qui sont traités depuis des années, on a tout vérifié dans le sang. Il n'y a pas de modification au niveau des reins, etc., etc. Le seul effet secondaire, et celui auquel on s'attendait, auquel il faut faire très attention, c'est une baisse de potassium dans le sang. parce qu'une baisse de potassium dans le sang, ça peut être embêtant pour le cœur. Mais on n'a pas eu de problème, c'est-à-dire ceux qui l'ont eu.
Donc on complémente dans ces cas-là?
On complémente avec du potassium. Moi, je mange 3 bananes par jour, ça marche aussi bien. Ça suffit largement. Il y a des tas de nourritures qui sont pleines de potassium, donc c'est pas un problème grave. Mais il faut être au courant. C'est-à-dire qu'il faut pas prescrire ça n'importe comment, parce que, voilà, ça peut avoir des conséquences que nous souhaiterons éviter, évidemment. Donc il faut le faire uniquement à temps, et il faut que les parents comprennent que la raison pour laquelle les autorités sont tellement
précautionneuses,
c'est parce que justement elles veulent éviter des charlatans qui promettent X et Y tous les jours avec deux patients qui ont été traités avec succès. Donc autant je suis un peu, je suis contre l'administration excessive, autant je comprends dans ce cas-là que c'est soit ça, soit n'importe quoi. Donc on est obligé de suivre.
Si la phase 3 est une réussite, on va aboutir sur quoi? Un médicament à prendre toute sa vie, tous les jours?
Alors ça c'est une question compliquée, parce que je pense que si on arrive à faire un diagnostic très tôt, pour l'instant, on ne le fait pas avant un an et demi. Les Américains disent qu'ils peuvent à 6 mois, mais c'est très débattu. Si on arrive à le faire plus tôt, je pense qu'on pourra améliorer le cœur du problème, qui est l'acquisition de l'interaction sociale, qui s'apprend. Vous savez, c'est pas inné, de savoir quelqu'un pleure, rire, comment on réagit.
Donc déceler le plus tôt possible cet effet déceler de chlore dont vous parliez tout à l'heure chez l'enfant?
Non, ça on peut pas le faire chez l'homme, c'est impossible, on peut le faire chez l'animal. Non, déceler le plus tôt possible l'autisme. Faire un diagnostic, cet enfant va être autiste. Et si on arrive à les traiter tôt, évidemment, les effets, on sait que des traitements, par exemple, psychologiques de genre ABA ou Teach marchent mieux quand c'est tôt. C'est évident, c'est compréhensible, parce que si on apprend tôt à réagir en société, on apprendra plus. Donc, ce que je veux dire quand même, une chose importante, c'est que, avec Servier, on va faire cette phase 3. Et moi, pour ma part, avec l'argent qui est rentré dans le Neurochlore, je vais essayer de créer une fondation. J'ai pas envie de faire Dieu sait quoi avec ces sous. Je vais créer une fondation, construire un institut dont le but sera justement de comprendre et de traiter des maladies neurologiques et psychiatriques. À bon entendeur, c'est vrai que c'est une opération assez ambitieuse, mais je pense qu'un des problèmes dont la France souffre, c'est que la distance entre recherche fondamentale et appliquée est un peu trop grande, géographique et conceptuelle. Alors que, et comme le financement de la recherche publique en ce moment va très mal, c'est pas un scoop, il va aller de plus en plus mal, je pense que ce genre d'approche permet de faire des recherches extrêmement conceptuelles avec des sous qui...
Donc ça vous oblige à travailler avec un laboratoire comme Servier, par exemple?
Non, je n'avais pas avec eux. Eux, ils vont investir pour avoir la licence dans Neurochlore. Si, je travaille avec eux pour la phase 3, bien sûr. Mais indépendamment de la phase 3, quand une boîte acquiert une licence, elle investit elle donne de l'argent à la boîte qui a la licence. C'est-à-dire, nous, en l'occurrence, avec Inserm Transfert. Et Neurochlore, avec cet argent, va construire un institut.
Allez, dernière question, Axel.
Oui, est-ce que cet institut, par exemple, ira chercher pourquoi, dans certaines conditions, le cerveau recrute trop de chlore? Est-ce que l'origine du mécanisme, c'est l'origine de la maladie aussi?
Absolument. Je travaille beaucoup sur des... Il y a des tas de questions d'importance majeure sur le plan de santé publique, comme par exemple la prématurité, les césariennes programmées, sur lesquelles on ne sait pas grand-chose sur le plan des mécanismes. Et nous faisons ça chez les souris. Nous essayons de comprendre chez la souris quels sont les mécanismes qui résultent de ça, notamment l'entrée de chlore. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe in utero. Parce que c'est là la clé du problème. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe in utero. Si on comprend ça, on pourra avancer.
Ezekiel Benary, ce sirop, il pourrait arriver quand sur le marché, a priori, si tout va bien? Fin 2021, avec toutes les précautions d'usage.
Parce que vous savez, les autorités européennes à Londres prennent un an à répondre une fois que nous avons réussi l'essai, alors évidemment.
Mais c'est important de le préciser et de dire qu'il faut être patient.
Faire avant. Voilà. On ne peut rien faire avant, malheureusement. On ne peut pas aller plus vite que la musique.
Merci beaucoup, Ezekiel Benary. Donc, résultat que vous avez donné hier autour donc de ce diurétique et de ses promesses autour de l'autisme. Merci beaucoup. Axel, on se retrouve ce soir, au fait.
On se retrouve à 18h30 sur Facebook pour un live avec toute l'équipe.
Voilà, et ce sera donc l'occasion de discuter tous ensemble. N'hésitez pas à vous connecter 18h30 ce soir.
Et d'ici là, on a laissé sur la page Facebook un formulaire pour nous poser des questions à l'avance. N'hésitez pas à le remplir aussi.
Merci beaucoup. À tout à l'heure. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un crâne fossilisé de 400 000 ans pourrait éclaircir les origines sur l'homme de Néandertal. C'est au Portugal que ce crâne, présentant plusieurs traits typiques du genre, notamment un épaississement osseux singulier au niveau des sourcils, a été trouvé. Il s'agit du plus ancien crâne d'hominidé découvert dans la péninsule ibérique. La datation de ce fossile, obtenue grâce au sédiment dans lequel il était emprisonné, est d'ailleurs l'une des forces de cette découverte. Elle permet aux chercheurs de penser que le crâne appartenait à un ancêtre de l'homme de Néandertal, disparu il y a 30 000 ans, et dont nous ne connaissons pour l'instant pas grand-chose. Des chercheurs recréent des mini-organes en laboratoire, ou plus précisément des organoïdes qui miment les caractéristiques de nos organes. Foie, cœur ou même glandes salivaires sont autant d'organes qu'il est capable d'imiter à partir de cellules souches. Grâce à cette méthode, on peut ainsi observer la façon dont certaines maladies agissent sur le métabolisme ou tester les effets de nouveaux médicaments. En revanche, il n'est pas possible de s'en servir pour des greffes, ces organoïdes n'étant pas fonctionnels. Et puis pour finir, une avancée théorique importante en physique fondamentale. Il existe, vous le savez, une vitesse maximale de refroidissement. Vous ne le savez pas encore d'ailleurs, c'est la découverte. Une vitesse maximale de refroidissement de la matière. C'est ce que pensent avoir démontré deux physiciens londoniens. Cette valeur serait en quelque sorte l'équivalent, ça vous le savez, de la vitesse de la lumière, mais appliquée à la thermodynamique. De la même façon que rien ne peut rivaliser avec la vitesse de la lumière dans le vide, la matière ne peut pas refroidir plus rapidement au-delà d'une certaine vitesse. Des applications pourraient découler de cette découverte, par exemple dans le domaine des ordinateurs quantiques fonctionnant à très basse température. Mais les chercheurs insistent surtout sur la valeur théorique de leurs travaux publiés dans le journal Nature, puisqu'ils permettent de confirmer la troisième loi de la thermodynamique sur laquelle se basent de très nombreuses recherches.